au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 9 février, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ouais, ben c'était pas mal froid. Présentement, c'est moins 10 au cœur de la Lanaudière. L'émission aujourd'hui, on aura l'occasion de s'entretenir avec Gabrielle Catafort. Elle est pharmacienne dans la Lanaudière. Il sera question de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine pharmaceutique. Avec Pierre Paquette, on parle d'Air Canada qui suspend ses vols en direction de Cuba. Aussi à l'émission aujourd'hui, Claire Bouchard, porte-parole d'un groupe de citoyens là, qui veut faire annuler des coupes forestières en Matawinie. Également, Jean-Pierre Finet, un expert indépendant dans le dossier du projet d'Hydro-Québec Axe-Vallée du Saint-Laurent. Mais tout d'abord, le dossier de l'immigration qui semble être devenu un autre boulet au pied de la coalition Avenir Québec, des dizaines de milliers d'immigrants qui ont maintenant une mauvaise perception du Québec qui les a attirés. Ils se sentent carrément abandonnés. François Morin s'est entretenu là-dessus avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Définitivement, c'est un des autres sujets pour lesquels la CAQ a beaucoup de difficultés à exposer sa vision et à trouver une certaine adhésion de la part d'une partie importante de la société à celle-ci, que ça soit au niveau des partis d'opposition, on dira que c'est leur rôle, que ça soit au niveau tant du côté patronal que du côté syndical, les associations des municipalités également. On dénonce cette, non pas la volonté du gouvernement d'abolir le programme d'expérience québécois, quoique cette volonté-là aussi beaucoup critiquée, mais surtout le fait qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le clause grand-père pour les gens qui étaient déjà dans ce processus-là établi par le programme d'expérience québécoise, le PEC, pour obtenir éventuellement un certificat de sélection de la part du gouvernement du Québec, c'est-à-dire une autorisation pour éventuellement obtenir le statut de résident permanent. Donc, ces gens-là, avec la façon de faire de la CAQ, alors qu'ils étaient en processus pour obtenir ce certificat-là, ben maintenant, retournent à la case départ, si on veut, avec le programme là, de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, que la CAQ met de l'avant, qui fonctionne différemment avec un système de pointage et surtout qui fonctionne sur appel, c'est-à-dire que sur invitation. Donc, c'est la CAQ, le gouvernement, devrais-je plutôt dire, qui envoie une lettre à une personne pour dire, ben voilà, avec les points que tu accumules avec ton dossier, ben là, on t'invite officiellement à appliquer et éventuellement obtenir le certificat de sélection du gouvernement. Donc, des gens sont coincés entre le changement d'un programme à l'autre. Il n'y a pas un consensus à l'effet que le nouveau programme est moins bon que le premier. Ça, il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a des nuances et on sent une ouverture à la part des différents groupes qui interviennent dans ce débat-là pour donner une chance au nouveau programme. Mais c'est vraiment la transition de l'un à l'autre, l'abandon perçu par certaines personnes du PEC vers le PSTQ qui fait grincer les dents et qui va jusque dans la course à la chefferie de la CAQ alors que les deux candidats, donc Bernard Drinville et Christine Fréchette, ont des positions un peu plus nuancées là-dessus. Ce qui fait que le ministre Jean-François Roberge, pour l'instant, demeure un peu seul au front à porter sa vision, à ne pas accorder de clause grand-père là-dessus.
En fait, ce qui est dramatique dans ce dossier-là, c'est que c'est l'incertitude qui gagne tout le monde. C'est que les gens ne savent même pas s'ils seront invités à appliquer sur le programme.
Et c'est vraiment ça qui est dénoncé par les différents acteurs. Le fait qu'il y a des entreprises qui reçoivent des personnes qui sont en processus avec le PEC pour obtenir leur résidence permanente. Ces personnes-là, en attendant, travaillent chez l'entreprise, payent des impôts, contribuent à la société. Et il y a des nouvelles qui sortent ici et là, des cas de personnes qui doivent renoncer à ça, des entreprises qui perdent donc des employés. Et ça questionne justement la volonté que le gouvernement de la CAQ avait mise au départ d'en prendre moins, mais d'en prendre soin. Rappelons quand même que le gouvernement dit, c'est qu'on va prendre des personnes qui cadrent mieux avec ce qu'on veut, que même les personnes qui sont en processus du PEC, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la société en fonction du système de pointage, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels les gens travaillent, de où, géographiquement parlant, les gens travaillent, en priorisant les régions, on pourra mieux sélectionner les bonnes personnes pour combler les bonnes fonctions. C'est la volonté du gouvernement, mais dans ce processus-là, s'il y a des... l'engrenage grince beaucoup et c'est effectivement, ça crée énormément d'incertitudes dans un contexte aussi où justement il y a une course à la chefferie et dans 2 mois on aura une nouvelle personne à la tête du gouvernement que d'ici la fin de l'année, il y aura des élections et potentiellement un nouveau gouvernement d'une nouvelle formation politique complètement aux commandes, et que pour ces personnes-là, ça rajoute encore plus d'incertitudes.
Et à cela s'ajoute le débat fédéral-provincial, c'est-à-dire que Québec dit ben il n'y aura pas de clause grand-père, mais d'un autre côté, renvoie la balle du côté d'Ottawa, puis il faudrait qu'Ottawa accorde les permis de travail.
Et c'est un classique, évidemment, de la politique canadienne. C'est la faute à qui entre le provincial et le fédéral. Rappelons quand même que tout le dossier de l'immigration, en ce qui concerne particulièrement l'immigration économique, pour la grande majorité des cas d'immigration, avec une exception là pour les demandeurs d'asile, mais c'est géré par le provincial et le fédéral suit un peu. Mais évidemment, il y a des échanges de part et d'autre. Il y a des étapes provinciales, des étapes fédérales dans ce processus-là. Mais pour l'essentiel, c'est dirigé par le gouvernement du Québec. Et c'est pour ça que le fédéral renvoie beaucoup la balle dans le camp du provincial en disant « c'est à vous à gérer ça ». Mais il y a effectivement certains éléments du fédéral, notamment pour certains permis de travail particulièrement. Donc, c'est jamais simple. Et on mentionnait qu'il y a beaucoup d'incertitudes présentement avec les différents changements dans la politique provinciale là-dessus. Mais ça fait que surtout pour les personnes qui veulent comprendre la situation en général, forte raison pour les principales personnes intéressées, c'est-à-dire les personnes en processus d'immigration, c'est encore plus complexe entre les changements de politique au provincial, l'implication dans certains dossiers du fédéral.
Et indépendamment de qui gagnera la course au leadership de la CAQ dans la population, ça n'a rien justement pour améliorer la popularité du parti au pouvoir.
Surtout l'image que ça donne, c'est un gouvernement qui, à tort ou à raison, mais l'image que ça donne, c'est un gouvernement qui est moins connecté qu'une partie de sa population, qui est entêté avec des changements lorsque plusieurs groupes disent, qui sont souvent opposés ensemble, par exemple les patrons et les syndicats, qui disent non, faites pas telle chose, faites telle chose, et que le gouvernement ne va pas dans ce sens-là. C'est sûr que pour la population, ça ajoute au cynisme, ça ajoute à cette volonté-là de vouloir changer de gouvernement. Présentement, c'est pas un dossier qui est politiquement très vendeur pour la CAQ, parce que l'image qui en ressort, c'est un gouvernement qui est en fin de vie, qui s'entête, n'est plus capable d'avoir une orientation qui est claire.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. Ça regarde pas bien. Quand tu es au gouvernement, tu nages à contresens de la rivière, ou en fait de la rivière, passez-moi plutôt, c'est une métaphore, là, on parle de l'opinion de la population, que ce soit le patronat ou encore les syndicats, ça regarde pas bien. Et on peut le voir aussi dans un sondage qui est paru ce matin au niveau du troisième lien à Québec. Ça fait plus bien l'affaire de beaucoup de monde. Disons qu'il y a de moins en moins de Québécois qui voient la pertinence là du troisième lien. Il est 16h14. Dans un moment, Jean-Pierre Finet, expert indépendant dans le dossier du projet d'Hydro-Québec Axe-Vallée du Saint-Laurent.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour quad. La pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 70,48 puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 34,28. Hey, c'est super, Super C! Valide jusqu'au 11 février en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux. Et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $.
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Sainte-Mélanie, Marché Tradition Beaulieu. À Sainte-Julienne, Dépanneur Ultramar. Dépanneur Couchetard. Dépanneur La Porte Montcalm. À Radon, Dépanneur Provisoire. Dépanneur Radon, le marchand du coin. À Chersey, Marché Chersey. Entrelac, Dépanneur Entrelac. À Notre-Dame-de-la-Merci, Dépanneur Amérique 125. À Saint-Donat, Dépanneur Bonissoir Oasis. À Sorel-Tracy, Dépanneur Bonvoisin. Dépanneur Guylaine, Liquidation Guertin. Club Vidéo Saint-Gabriel. Magasin Général Sorel. À Massuville, Dépanneur S.G. Bardier. À Saint-Ours, Marché Tradition Arpin et Fils. À Contrecoeur, Marché de la Picoleuse. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu. CFNJ.
Lanaudière PM. Ressources naturelles.
16h17, il y a 75 citoyennes et citoyennes qui ont participé en fin de semaine à Saint-Gabriel-de-Brandon à une rencontre d'information là, sur la transition énergétique dans Lanaudière. Et ça portait entre autres sur le projet d'Hydro-Québec Axe-Vallée du Saint-Laurent. Michel Arnault a eu l'occasion de rencontrer un expert indépendant venu expliquer aux participants sa vision du projet. Il se nomme Jean-Pierre Fizet.
Ben, ce qu'on a transmis aujourd'hui, c'est que finalement, le gouvernement a prétexté la transition énergétique pour procéder à un vaste chantier de production d'électricité, mais qu'en fait, c'est seulement l'industrialisation qui est priorisée, puis qu'on finalement, c'était un prétexte seulement à la décarbonation, puis que la majorité de cette production-là va être destinée à l'industrialisation.
Ce que vous dites, finalement, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin?
Bien, c'est-à-dire qu'on n'en a pas vraiment besoin. La priorité prioritaire devrait être de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Tout ça pendant qu'on nous demande d'acheter des autos électriques? Tout ça pendant qu'on a de plus en plus d'appareils à la maison?
Bien, exactement. Donc, on devrait quand même, là, justement, électrifier la plupart des usages et décarboner notre économie. Mais si on accorde des sommes, des 360 mégawatts à des Northvolt de ce monde, ben c'est 360 mégawatts qui n'iront pas, justement, pour remplacer du combustible fossile. Donc, c'est un problème. On n'a pas les priorités à bonne place, finalement. On priorise l'industrialisation à la décarbonation, tandis que l'urgence d'agir, c'est de décarboner l'économie québécoise avec ce qu'on a puis ce qu'on va produire, les prochains kilowattheures qu'on va produire.
J'aimerais ça qu'en mots simples, vous me dites, la décarbonation, c'est quoi? Comment on rend ça accessible à monsieur, madame, tout le monde?
Ben, la décarbonation, c'est le remplacement de combustibles fossiles par de l'électricité ou par des énergies qui sont renouvelables. Donc, quand on change un véhicule à essence pour un véhicule électrique, ben, on vient décarboner le transport. Quand on va favoriser le transport en commun, l'autopartage, le covoiturage, ben, réduire l'utilisation de combustibles fossiles. Donc, on vient enlever du carbone de l'économie. Donc, c'est simplement ça, la décarbonation, c'est le remplacement de combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre par de l'électricité propre qui n'émet pas de gaz à effet de serre.
Vous dites que le gouvernement est en train de politiser les tarifs.
Oui.
Vous m'expliquez ça?
Bien, c'est-à-dire que avant la création de l'énergie, la régie de l'énergie, c'était les tarifs d'Hydro-Québec étaient surtout décidés en commission parlementaire par des gens qui connaissent rien à ça, puis Hydro-Québec arrivait avec ses experts, puis disait, ben voici, là, on a besoin de 5,9% d'augmentation. Et là, le ministre arrivait, puis disait, non, je vais vous donner 3,9%. Et donc, Hydro-Québec avait souvent ce qu'il voulait, et le gouvernement, le ministre paraissait bien, puis finalement, on n'avait pas nécessairement des tarifs qui représentaient nécessairement les vrais besoins d'Hydro-Québec. Donc, il n'y avait jamais moyen de savoir si on payait le juste prix, si les tarifs étaient établis de façon juste et raisonnable. Avec la Régie de l'énergie, les groupes de consommateurs sont représentés, les groupes environnementaux sont représentés, et tout le monde vient analyser la demande du distributeur et la régie, en fin de compte, va rendre une décision sur des tarifs qui sont justes et raisonnables. Par exemple, qu'est-ce qui empêcherait un gouvernement comme la CAQ en ce moment de dire, là, c'est une allée électorale, là, finalement, on gèle les tarifs. Ça va être 0% d'augmentation, mais on va tout augmenter davantage les commerces puis les industries. Donc, c'est quelque chose qui est pas souhaitable. L'électricité, c'est un bien essentiel. On peut pas laisser ça au gouvernement de décider sur des critères qui sont pas rigoureux, qui ont rien à voir avec les revenus requis d'Hydro-Québec.
Le projet Axe Vallée-Saint-Laurent, puis on devrait pas développer?
Ben, c'est-à-dire, comme je disais dans ma présentation, on a mis la charrue devant les bœufs. On a commencé à projeter de la nouvelle production puis des lignes de transport sans savoir de combien d'énergie on a de besoin puis comment on devrait la produire, cette énergie-là. Si on produisait davantage de proximité, on n'aurait peut-être pas besoin d'autant de lignes de transport. Si on réduisait nos besoins aussi, on n'aurait pas besoin de peut-être autant de lignes de transport. Donc, si...
Vous pensez qu'on est capable de faire ça, de réduire nos besoins?
Ben oui, entre 100 et 200 TWh, il y a une marge. Et oui, je pense qu'on doit réduire nos besoins à la source. C'est nous, on a toujours favorisé de réduire avant de produire. La meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas, puis c'est vrai.
Donc, vous êtes convaincu qu'on est en train de se faire passer un sapin? C'est vous-même qui l'avez dit?
Oui, on est en train de se faire passer un sapin dans le sens qu'on nous a prétexté la transition énergétique pour finalement dire, on peut juste faire du développement économique parce que Trump fait en sorte que, faut maximiser notre compétitivité puis trouver d'autres marchés ailleurs, puis etc. Donc, c'est ça, on s'est fait passer ça sous un prétexte, puis finalement, c'est pas ce qui va s'avérer. Donc, moi, je pense pas qu'on devrait détruire l'environnement simplement pour des raisons économiques. C'est pas vrai qu'on va scraper une rivière pour fabriquer des batteries, là, tu sais.
En terminant, si je vous demandais à monsieur et madame tout le monde, quel est le geste qu'ils pourraient poser pour aider?
Encore là, de réduire la consommation puis d'électricité et d'énergie fossile, c'est la chose à faire. Cependant, si le gouvernement détourne toutes ces économies-là au profit de l'industrialisation, on se trouve pas plus avancé par après. Là, on n'aura pas plus décarboné notre économie.
Direz-vous que l'information, c'est la clé, donc, à ce moment-là?
Oui, je pense que l'information, c'est la clé. Puis de la rappeler au gouvernement qu'il peut pas... Même sans les mandats légitimes. Là. Comme je dis, on n'a jamais voté pour ça. Là. C'était pas dans le programme du parti de la CAQ lors de l'élection. Puis on peut pas venir comme ça dire prétexter une chose et faire son contraire. Là, t'sais. Faut avoir un certain respect pour la population, puis pour les priorités aussi qui sont d'être capable d'avoir un avenir pour nos enfants. Puis là, en ce moment, c'est très inquiétant pour eux. Là. Ils voient bien que c'est pas ce qu'on nous a promis qui est en train d'arriver. Là.
Bon, c'est Michel Arnois qui rencontrait Jean-Pierre Finet. C'est un expert indépendant qui est venu parler en fin de semaine à la population. Là, 75 citoyens et citoyennes qui ont participé d'ailleurs en fin de semaine à Saint-Gabriel-de-Brandon à une rencontre d'information sur la transition énergétique en lien avec le projet d'Hydro-Québec Axe-Vallée-Saint-Laurent. Il est 16h25 aux Olympiques au hockey féminin. Le Canada qui met en ce moment face à la Tchéquie 5-0. On est en deuxième période et la mauvaise nouvelle, c'est que la capitaine canadienne Marie-Philippe Poulin a dû quitter le match pendant plusieurs minutes en première période après avoir encaissé une solide mise en échec. Elle a semblé subir une blessure au bas du corps qui l'a envoyée au vestiaire là, au milieu de la première période et elle est revenue au jeu avant la toute fin de la période. Elle participe là, présentement là, à la deuxième période. Et au rang des médailles, c'est la Norvège qui mène en ce moment. Le Canada se trouve en 17e place avec 2 médailles. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure aux informations avec Marie-Pierre Poulin. Les cas d'insolvabilité des consommateurs au Canada ont augmenté de 2,3% en 2025 par rapport à l'an passé. Le bureau du surintendant des faillites rapporte plus de 140 000 cas, le nombre le plus élevé depuis 2009. Le président Jean Fortier est associé syndic autorisé en insolvabilité. Pierre Fortin qui souligne que 80% sont des propositions, soit une entente qui permet de rembourser une partie des dettes. Il explique pourquoi cette formule est de plus en plus populaire. On l'écoute.
En 2012, c'était 60% des dossiers d'insolvabilité étaient des faillites. Et aujourd'hui, en 2025, c'est 20%. Les gens ont plus d'actifs qu'avant. Il y a plus d'équité dans les maisons. Les maisons ont pris beaucoup de valeur. Il y a aussi l'ouverture d'esprit des créanciers qui sont beaucoup plus ouverts maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant à accepter des offres. Même si c'est à rabais, c'est déjà mieux que ce qu'une faillite leur offrirait.
Et puis de passage au Saguenay aujourd'hui, Bernard Drainville a fait savoir qu'il a hâte de connaître la position de son adversaire Christine Fréchette à propos du troisième lien entre Québec et Lévis. La candidate à la chefferie de la CAQ a déclaré, plutôt le candidat Bernard Drainville a déclaré en point de presse qu'il est temps de se brancher.
Ma position est claire. Maintenant, on attend que Christine termine ses consultations. Elle devait prendre sa décision très prochainement. Là, la semaine passée, elle disait que ça pourrait prendre encore 2 semaines. Alors, on va la laisser terminer ses consultations. Je laisse aux autres, les Val, ses hésitations. Je pense qu'il est temps de se brancher.
Bon, voilà, il est 16h27. L'actualité s'en vient avec Marie-Pierre Poulin.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu dense, secteur du boulevard Henri Bourassa. Sinon, on traverse aisément par la suite là, la rivière des Prairies, Repentigny. Ça va bien, 40 est sans problème. La 341 montée de l'Épiphanie, là, c'est très, très lourd depuis la 40 et ce, jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Le pont Le Gardeur, accès facile autant par Notre-Dame que par Sherbrooke. La 25 Nord, quand même pas si mal. Le secteur de Laval, à peine un peu nombreux, la jonction avec la 440. On traverse aisément vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Mascouche 25 Nord, ça se passe très bien. Pont Sophie-Masson, ça va bien en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction est, on circule sans problème. Direction ouest, on a un petit peu de difficulté cet après-midi. Là. Secteur de la montée des Pionniers, là, c'est lent en ce moment. Également lent à l'approche de la montée du Mai. L'actualité dans un instant.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda, une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrices portatives la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les 3 jeux. Et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $.
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Didas-des-Panneurs-des-Lacs. à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
L'actualité de ce lundi 9 février en manchette. Les voyageurs en direction de Cuba sont inquiets. Un autre appui-taille pour Christine Fréchette dans la course à la direction de la CAQ et deux médailles de bronze pour le Canada aux Jeux olympiques. Tout d'abord, Marie-Pierre Poulin, les voyageurs en direction de Cuba sont de plus en plus inquiets.
Oui, Air Canada suspend ses vols à destination de Cuba. Le transporteur prend cette décision après l'annonce de Cuba de ne plus offrir le ravitaillement en kérosène dans l'île. De leur côté, Sunwing et Air Transat maintiennent leurs vols. Stéphane Boucher.
Une pénurie de carburant sévit à Cuba. Le kérosène ne sera plus offert à la vente pour les avions dans les aéroports de l'île. Air Canada réagit. Son service est suspendu jusqu'au 1er mai pour cette destination. Éric Boissonneau est vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec.
Donc, en procédant ainsi, Air Canada offre le plein remboursement à ses clients. Ceux qui étaient réservés sur ces vols-là qui vont obtenir un plein remboursement.
Air Canada dépêchera des avions vides pour rapatrier ses 3000 clients présents à Cuba. Éric Boissonneau croit aussi que la décision d'Air Canada a été motivée par une baisse de la demande pour cette destination.
Vraiment que les ventes ne sont pas là, donc ils ont aimé mieux, en bon québécois, de tirer la plug plus vite que plus tard et puis pour donner des options à leurs clients.
La pénurie de carburant qui sévit à Cuba est causée par la fin des importations de pétrole vénézuélien. Stéphane Boucher, Cogeco Nouvelles.
Et puis un appui de taille, Marie-Pierre, pour Christine Fréchette dans la course à la chefferie de la CAQ.
Oui, le député caquiste de Granby et ex-ministre François Bonnardel a choisi son camp. Il appuie Christine Fréchette dans la course à la chefferie. Il estime qu'elle a toutes les qualités d'une chef et dispose d'une expérience économique pour faire avancer les dossiers locaux et avec les États-Unis.
Christine, c'est une personne qui est posée, qui est calme, qui est rassurante, puis il devra répondre à deux questions. Qui peut mieux défendre les intérêts économiques du Québec là, dans un contexte géopolitique immensément incertain? Le coût de la vie, Christine a fait une première annonce la semaine passée là, pour rembourser la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs d'une maison. Je pense que c'est un point sensible.
On sent que ça va être de plus en plus difficile là, pour Bernard Drinville. Ouais. Maintenant, le Bloc québécois qui veut faire annuler une vieille tradition désuète à la Chambre des communes.
Oui, un travail est amorcé afin de recevoir certaines règles de procédure et façons de fonctionner. Le Bloc québécois propose l'abolition de la prière en début de journée pour un moment de recueillement, comme cela se fait par exemple à l'Assemblée nationale. C'est le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, qui a lancé le débat vendredi. Selon lui, le Parlement doit servir chacune de ses citoyennes et chacun de ses citoyens, et toutes ces personnes n'ont pas la même religion. Il y en a même plusieurs qui n'en ont pas. Il s'agirait d'une question de respect de chaque individu pour que chaque personne puisse, si elle le désire, faire une prière toute seule avec elle-même ou avoir un moment de réflexion.
Marie-Pierre, on parle de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine pharmaceutique.
Oui, l'Ordre des pharmaciens du Québec lance la deuxième phase de sa campagne, une bonne dose d'avenir pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui affecte le secteur pharmaceutique. Cette pénurie de main-d'œuvre touche les pharmacies communautaires, les hôpitaux et les CHSLD dans la Naudière, alors que 67 postes d'assistants et d'assistantes techniques en pharmacie et de techniciens et de techniciennes en pharmacie sont vacants. La pharmacienne Gabrielle Catafort souligne que cette campagne vise à mettre en évidence l'importance cruciale de ces emplois.
Et on veut en avoir plus justement parce que les techniciens en pharmacie vont probablement avoir plus de droits et ils vont pouvoir faire plus de choses pour les patients que par exemple les assistantes techniques en pharmacie puisqu'ils ont une formation supplémentaire. Donc de plus en plus, ça va être un super beau métier. Puis ils vont pouvoir aider les patients directement.
Jeux olympiques de Milan en Italie, là, le Canada qui tire de la patte, là, mais quand même, 2 médailles de bronze.
Oui, le Canada compte déjà maintenant 2 médailles de bronze. Et le premier athlète lanaudois à s'engager dans la compétition sera Steven Dubois, originaire de Terrebonne, qui prendra part aux 1000 mètres en patinage de vitesse sur courte piste à Saint-Curtis, heure locale, demain. Rappelons que Dubois a remporté 3 médailles aux Jeux olympiques de Beijing. De son côté, Audrey McManiman, qui est originaire de Saint-Ambroise de Kildare, participera à l'épreuve de snowboard cross à 4 heures, heure locale, vendredi. À Beijing, McManiman s'était classé au 11e rang.
Et finalement, un projet d'Hydro-Québec, Marie-Pierre, qui inquiète les citoyens de la Matawinie.
Oui, un questionnement est soulevé par le projet Axe-Vallée de Saint-Laurent d'Hydro-Québec qui propose une ligne de transmission qui passera dans la MRC de Dautry entre Saint-Norbert et Saint-Gabriel-de-Brinden. De plus, la Société d'État installera les postes de transformation soit à Saint-Cuthbert ou à Saint-Norbert. Un des objectifs est de mieux répondre à la demande. Jean-François Blais est analyste dans le secteur de l'énergie. Il reproche au gouvernement et donc à Hydro-Québec de faussement prétendre amorcer une transition énergétique alors qu'il n'y a pas de dispositif contraignant sur l'utilisation des énergies fossiles.
Si on n'a pas de réduction de plan avec des échéances, des quantités, des mécanismes de suivi de reddition de compte, la décarbonation ne se fera pas. On va investir massivement dans le secteur électrique. Ça va juste augmenter la part des ressources financières des ménages et des entreprises consacrées à l'énergie au détriment de leur capacité de dépenser dans tout le reste.
Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Merci, Claude.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Environnement.
Il est 16h37, des citoyens de Lanaudière s'adressent à la justice pour faire annuler une décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui juge déraisonnable et contraire à la loi. C'est la décision d'autoriser des coupes forestières là, qui risquent de causer des dommages irréversibles là, au lac Cristal et Civil. Ça, c'est en Matawinie. Et François Morin en a discuté avec le porte-parole, plutôt la porte-parole de cette association de citoyens, Claire Bouchard.
C'est notre dernier recours, hein. C'est pas comme si on y allait de gaieté de cœur. C'est vraiment notre dernier recours pour faire entendre raison au ministère. Ce qui arrive aussi, c'est que nous, on est rentré dans un processus là, vraiment de David contre Goliath. On parle de citoyens bénévoles, hein, qui moi, je travaille temps plein aussi. Là. Alors, cette lutte-là que je mène contre le MNF, je la fais de soirée de week-end. Puis, on est rentré donc dans un processus d'harmonisation, vraiment de bonne foi, en se disant, OK, comment qu'on fait pour harmoniser un site que nous, on considère aussi exceptionnel. Après ça, dans le fond, il y a eu aussi un vote contre à la table GIR, mais le MRNF n'accorde que très, très peu d'importance hein, au final à la table GIR. Alors, on est allé en règlement des différends, on a contesté la première décision, on est allé en deuxième instance. Et là, ben, c'est probablement tout ce qui nous reste, là, le juridique.
Alors, finalement, le processus de consultation, on va l'appeler comme ça, c'est de la poudre aux yeux.
Ben, c'est ce qu'on dit dans le pourvoi. Dans le fond, nous, ce qu'on a déposé, c'est un pourvoi en contrôle judiciaire. Donc là, j'arrive avec des termes quand même juridiques. Je vous ai parlé du processus d'harmonisation. Hein. Dans le fond, c'est là où il faut trouver l'harmonie entre les différents utilisateurs là, d'un territoire. C'est ce qu'on appelle, nous, un écran de fumée, au final. Parce que bien que, nous, dans le processus d'harmonisation, il a été très, très long, on s'est rendu jusqu'à la 9e carte d'harmonisation, puisqu'on reproche beaucoup au MRNF, en fait, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une nouvelle carte, il ne faisait qu'appliquer des règles et des lois en place. L'harmonisation, au final, aurait dû commencer à la 9e carte. Lorsqu'une fois que les lois et les règles sont réellement respectées. Après ça, on peut commencer à harmoniser. Mais nous, pendant 18 mois, tout ce qu'on faisait, c'était dire « Oh, vous avez oublié ça, ici, il y a un milieu humide et tout ça. » Alors même, mois plus tard, il y a encore des règles qui sont pas respectées dans le chantier Cristal. Je peux vous donner quelques exemples. On parle vraiment comme des lisières boisées de protection autour des cours d'eau qui ne sont pas encore respectées. Une protection qu'on considère inadéquate pour les frayères, une protection aussi qu'on considère inadéquate pour les bouts de villégiature, le fait que on s'enligne pour un chantier hivernal, ce qui va à l'encontre des modalités d'un site faunique d'intérêt comme le lac Cristal et le lac Civille, etc. Là. Donc, 18 mois plus tard, on considère, dans le fond, qu'on a fait que avoir eu ce que le gouvernement nous présentait comme des concessions faites aux citoyens, alors que ce qu'on ne faisait qu'appliquer la loi.
Madame Bouchard, honnêtement, on peut pas être contre le développement économique, un développement cependant ordonné. Est-ce qu'on a l'impression que le gouvernement cède au lobby des forestières?
C'est sûr qu'il y a une très grande proximité, du moins ce qu'on a, nous, remarqué en tant que citoyens, c'est qu'il y a vraiment une très, très grande proximité hein, entre l'industrie forestière et le ministère. Chose qui a été 20 fois reprochée là, par plusieurs citoyens et même par Richard Desjardins hein, dans l'erreur Montréal. On a tellement de matière dans le chantier Cristal que si jamais je lance une perche à M. Desjardins, s'il veut faire l'erreur boréale numéro 2, juste avec le chantier Cristal, il y aurait moyen de faire un documentaire. On avait confiance, nous, quand même, dans le processus là, d'harmonisation forestière. On est conscient que l'industrie forestière au Québec est une industrie importante. On n'est pas là non plus pour mettre en compétition l'économie et l'écologie. C'est pas ça du tout, là. Ça va au-delà du chantier Cristal, en fait. C'est qu'on se demande dans des sites écologiques exceptionnels, comme le lac Cristal et le lac Civille, pourquoi même, des fois, intervenir? Les mesures de protection devraient aller aussi loin que le caractère exceptionnel de ces lacs-là.
En terminant, est-ce que la demande de pourvoi met un terme de façon temporaire à tout projet forestier ou il faudra attendre que la cause soit entendue et jugée?
Il faut attendre que la décision soit rendue. Là, pour l'instant, on constate quand même une bonne communication avec le procureur général du Québec. Nous, la coupe, elle n'est pas imminente, mais elle pourrait avoir lieu en 2026. Là. Donc, il y a une demande de sursis qui a été déposée également, mais pour laquelle là, on attend, là, dans le fond, que la menace soit imminente avant d'aller la plaider.
Bon, voilà, c'est François Morin qui discutait avec Claire Bouchard. Elle est porte-parole d'un regroupement de citoyens et citoyennes de la Naudière, plus précisément de la Matawini, là, qui s'adresse à la justice pour faire annuler une décision du ministère des Ressources naturelles et des forêts qu'il juge déraisonnable dans le cas de coupes forestières autour des lacs Cristal et Civille. Il est 16h42. Dans un moment, Pierre Paquette.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Pour la Saint-Valentin, CFNJ vous envoie de l'amour. Et vous envoie aussi au resto. Jusqu'au 14 février, repérez l'indice du jour mentionné par vos animateurs. Puis inscrivez-vous à cfnj.net, section concours. Le jour de la Saint-Valentin, vous pourriez gagner l'un des 4 certificats cadeaux de 100$ chacun à l'échappée Grill et Bar Sportif de Joliette. Une inscription possible par jour jusqu'au 14 février à 13h. Concours réservé aux membres. Pour le devenir, voyez tous les détails sur cfnj.net.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, les ailes de poulet Flamingo format sélectionné sont à 6,95 puis les framboises 170 grammes sont à 2,44. Hey, c'est super, Super C! Valide jusqu'au 11 février en magasin et en ligne. Détails au supercé.ca.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Jude, Marché Omni, à Saint-Hugues, Marché Bonichois des Îlets, à Saint-Simon-de-Bagotte, dépanneur épicerie de chez nous, à Drummondville, épicerie Lausière, pharmacie Jean Coutu, à Saint-Charles-de-Drummond, pharmacie Jean Coutu et à Nicolet, les délices d'Audrey-Rainville, pharmacie Jean Coutu et dépanneur Royal. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, bon lundi.
Bon lundi.
Triste nouvelle tout d'abord. Avant de parler d'Air Canada qui suspend ses vols vers Cuba, on a appris hier en soirée le décès, la disparition de l'animateur, chroniqueur culturel Franco Nuovo. Tu l'as bien connu, Pierre?
Ben moi, je le connaissais depuis l'âge de 14 ans. Ça faisait 56 ans que je le connaissais. Et donc, c'est une vieille connaissance. On sait que nos vies se sont croisées à de multiples reprises. On a fait notre secondaire ensemble, notre collégial. Il était à l'université en même temps que moi. Moi, j'étais en économie, mais lui était en sociologie, mais on se voyait dans les corridors de sciences sociales. Et puis ensuite, ben, quand il a commencé sa carrière comme journaliste, on se voyait régulièrement. Un petit groupe là, qui venait de du collège. Récemment, dans, en 2022, il est venu me voir aux îles de la Madeleine pendant le confinement. Là, on n'avait pas, on pouvait pas aller n'importe où. Alors, une place où on peut aller, c'était les îles de la Madeleine. Il est venu me voir. Puis je l'ai rencontré par hasard il y a quelques mois, ben, quelques années, là, en 2023, à Rome, sur une terrasse.
Ah oui?
C'était évidemment un grand amoureux de l'Italie.
Ben oui,
parce que,
ben oui.
Bon, son père était d'origine italienne, sa mère aussi. Puis il parlait très bien italien aussi. Alors, par hasard, à un moment donné, je prends une photo, là, dans le bout de la fontaine de Trévi, puis j'entends « Hey, Paquette! » Non, c'était...
À une certaine époque, dans sa jeunesse, il tentait peut-être de faire disparaître ses origines italiennes en se faisant appeler François Duval.
Ouais, mais moi, j'ai jamais connu cette époque-là. Quand je l'ai connu, il était déjà assez fier de ses origines italiennes. Donc, ça veut dire vers 14 ans. Peut-être que c'était plus jeune... Mais ça, j'ai jamais eu connaissance de cette affaire-là. Au contraire, il était, ben évidemment, peut-être que plus jeune, tu sais, comme les Italiens à l'époque, on pense par exemple à Foglia. Quand on regarde Foglia, eux, leur objectif, c'était l'intégration la plus totale dans la société québécoise. Ça a changé un peu maintenant, mais sûrement que Franco, son père, c'est la même chose. Il voulait que son fils soit vraiment partie prenante de la société québécoise. Puis ça a été le cas, d'ailleurs. Il a été, je pense, un grand journaliste culturel et un grand journaliste d'actualité aussi.
Tous les gens qui ont travaillé avec lui, dont notre collègue Diane Lafrance, qui l'a côtoyé à la télévision à l'époque de TQS, disaient que c'était un homme extraordinaire. Il était très gentil. Mais on dit aussi que c'était un gars qui avait pas mal de caractère. Quand ça faisait pas son affaire, il laissait savoir.
Oui, c'est un gars qui prenait sa place et puis il peut être assez pince sans rire. D'ailleurs, ça a ressorti beaucoup dans les commentaires. Je me rappelle qu'à un moment donné, Nathalie Petrovski, parce que Nathalie Petrovski était dans notre cercle d'amis lorsqu'on était à l'école secondaire, là. On n'était pas dans la même école, contrairement à un article que j'ai lu, là, parce que nous, on allait à une école de gars, puis elle allait à une école de filles, mais on se tenait ensemble. Quand elle a commencé à travailler au Journal de Montréal, Franco riait d'elle en lui disant qu'elle parlait dans une feuille de chou, tout ça. Quelques années plus tard, ce qui est très drôle, c'est que Nathalie Petrovski était rendue au Devoir, mais lui était rendu au Journal de Montréal.
Oui.
Alors,
Il s'est joint au Journal de Montréal en 77 et il a fait beaucoup de millages avec le Journal de Montréal là, jusqu'en 2006, je crois.
Était capable de c'était plus que de la taquinerie.
Oui, c'est de la dérision, oui.
Oui, c'est ça. Mais ça n'empêchait pas d'avoir... je pense beaucoup de charme et puis tout le monde reconnaît que c'était quelqu'un qui avait pas de méchanceté.
Ben nos pensées vont évidemment à sa famille, ses proches, ses amis. Merci de nous avoir rappelé un petit peu ce bonhomme qui était Franco Nuovo, un grand communicateur.
Grand communicateur, oui.
Air Canada, Pierre, qui suspend ses vols en direction de Cuba, raison, ben pénurie de kérosène.
Oui, ben je pense que c'est plus grave que ça parce que il y a des compagnies aériennes qui continuent à aller à Cuba en spécial parce que on peut toujours aller s'approvisionner dans une autre île aux Antilles puis aller à Cuba puis revenir. Mais je pense que Air Canada considère que c'est le fait de transporter des touristes à Cuba représente un risque pour eux. Parce que tôt ou tard, on va avoir des problèmes d'approvisionnement de bien d'autres choses que du kérosène. Là. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont pris les devants. Les autres compagnies devront suivre sûrement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, si la situation ne s'améliore pas. Parce que c'est l'ensemble de l'économie cubaine qui actuellement est complètement paralysée du fait qu'ils ne reçoivent plus de pétrole du Venezuela, qui était leur fournisseur de pétrole.
Justement, tu penses pas que le but de Donald Trump, là, à la base, là, en allant enlever Maduro là, de la tête du Venezuela, c'était pas à quelque part aussi d'étrangler Cuba?
Oui, ça c'est comme je pourrais dire des dommages collatéraux.
Ouais.
C'était peut-être pas la première raison, mais c'est une raison qui s'ajoutait pour ébranler le régime castriste. Il faut dire aussi que le régime lui-même a ses responsabilités dans la crise actuelle, là, parce que ça date pas de quelques semaines, ça date pas de l'enlèvement de Maduro. Ça fait au moins 10 ans que l'économie cubaine va mal, alors qu'autrefois, bon mal an, ça c'était une société qui avait un des meilleurs systèmes d'éducation, le meilleur système de santé.
Système de santé, oui.
Oui, parmi les pays en développement. Alors, ça s'est beaucoup détérioré. Ça a commencé, évidemment, avec la chute de l'URSS, qui était leur principal client pour le sucre. Et eux, bon, la stratégie qu'ils avaient pris, les Cubains, c'est qu'ils avaient à peu près détruit l'ensemble des autres cultures pour développer le sucre, pour être capable d'approvisionner l'URSS puis les pays de l'Est. Alors, quand le mur de Berlin, le mur est tombé, ben ils ont perdu leur principal débouché pour leur principal produit, qui était le sucre. Et ça, ça a provoqué une crise qui est devenue une crise structurelle. Et là, vraiment, je vois pas comment est-ce qu'ils vont être capables de s'en sortir. Donc, c'est un régime qui est affaibli par l'intérieur, mais évidemment, Trump en profite. Et puis, le blocus qui est en place depuis 1962, là, il faut se rappeler qu'il y a eu la révolution Fidel Castro puis Che Guevara en 59.
Ils ont mis les Américains dehors à ce moment-là, oui.
Ouais, puis il y a eu un blocus qui s'est maintenu. Il est assoupli légèrement quand Obama est arrivé, mais dès que Trump est revenu, il a réinstallé l'ensemble des mesures. Et donc, ça augure mal. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'Air Canada prend les devants, mais ça va être suivi bientôt par presque l'ensemble des compagnies aériennes.
On dit, Pierre, qu'à partir de demain, on pourra plus fournir les avions commerciaux en kérosène à partir de Cuba, puis ça pour au moins un mois. Alors, est-ce qu'on a des plans pour dans un mois? Je sais pas, là. Mais il y a des compagnies qui vont quand même, là, WestJet, Sunwing, Transat, là, qui vont y aller en faisant escale, donc, pour aller remplir de carburant les réservoirs. Et aussi, du côté européen, Air France, quand même, qui poursuit ses vols vers Cuba en allant faire le plein là, dans des îles voisines, là.
Oui, ça c'est possible, mais rendu à Cuba, qu'est-ce qui va se produire au cours des prochaines semaines? C'est là où est-ce qu'on a un gros point d'interrogation. Il peut y avoir des poursuites contre les compagnies, que ce soit les agences de voyage ou les compagnies aériennes, parce qu'on a vu au cours des derniers jours des hôtels fermés. Ils concentrent actuellement les touristes dans certains hôtels. Donc, je dirais l'offre de services pour le tourisme est en train de se réduire. Ils sont même pas capables d'assurer eux-mêmes leur propre survie. Alors donc, je pense qu'à terme, ça va être toute l'industrie touristique qui va être prise en étau par la situation actuelle.
Puis en ce moment, ben, il y a des Québécois qui voudraient opter pour d'autres destinations, le Mexique, par exemple, la République dominicaine. Ouais, le problème en ce moment, là, c'est qu'à cette période-ci, en hiver, les gens, s'ils veulent se revirer de bord à dernière minute, vont devoir payer beaucoup plus cher.
Alors ça, c'est sûr, d'autant plus qu'on s'en va vers la semaine de relâche. Et on sait que la semaine de relâche scolaire, là, début mars, c'est une semaine où beaucoup de familles vont profiter de ce congé-là pour aller dans le sud. Alors, c'est sûr que là, les prix vont exploser. Déjà que les prix sont très élevés lorsqu'on veut aller n'importe quelle destination lors de la semaine de relâche, là, qui est le 1er mars, comme je le mentionnais. Donc, ça va être assez terrible pour les consommateurs, les touristes canadiens et québécois. Mais disons que c'est un moindre mal que ce que vivent actuellement les Cubains. Je pense qu'il faut être bien conscient de ça, là. Il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir.
Ah, tout à fait.
L'essence, le pétrole, c'est à la base de tout, le transport, la transformation. Donc, une fois qu'on a une pénurie dans ce domaine-là, ça affecte l'ensemble des activités économiques.
Merci, Pierre. Merci beaucoup.
Espérons qu'il y aura une solution. Je vais juste peut-être, en terminant, dire que le Mexique, lui, continue à fournir du pétrole. Mais pour des raisons humanitaires. Alors, je ne sais pas combien de temps Trump va accepter cette situation-là. Ça va être intéressant à suivre.
Merci, Pierre. Bonne fin de journée.
Merci, à mercredi. Bye.
Lanaudière PM. Santé.
Une pénurie de main-d'œuvre touche les pharmacies communautaires, les hôpitaux également, les CHSLD dans Lanaudière. Il y a actuellement 67 postes d'assistants, d'assistantes techniques en pharmacie et de techniciens et de techniciennes en pharmacie qui sont vacants. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec une pharmacienne, Gabrielle Catafort.
On a reçu un communiqué qui explique en fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre auprès des techniciens et techniciennes en pharmacie et on parle quand même d'environ 67 postes manquants dans Lanaudière. Qu'est-ce que ça représente en fait?
Oui, bien en fait,
les assistantes techniques en pharmacie ou les techniciens en pharmacie. Il faut comprendre que c'est deux postes différents. Puis on est comme en pénurie actuellement. Puis c'est essentiel pour nous en fait de travailler en collaboration avec les assistantes techniques en pharmacie et les techniciens en pharmacie parce que c'est eux qui nous aident dans notre travail de pharmacien dans le quotidien. Là. Donc c'est eux qui vont rentrer les ordonnances dans les dossiers. Ils vont compter les médicaments. Ils vont préparer vos médicaments, ils vont s'assurer que tout se déroule bien pour que nous, on puisse faire notre travail de pharmacienne et donc d'analyser votre dossier, de vérifier que tout est toujours adéquat pour vous. Donc, s'il nous manque de ces personnes-là, ben nous, on a moins de temps à consacrer à faire des soins aux patients. Donc, c'est pour ça que c'est assez préoccupant, en fait, cette pénurie-là, parce que moins de gens qui nous aident à faire le travail plus technique en pharmacie.
C'est quoi les autres milieux que ça touche aussi?
Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on parle de pharmacie communautaire comme une pharmacie de quartier, comme vous connaissez, mais il faut savoir que les techniciens en pharmacie travaillent également en milieu hospitalier. Donc, ils sont aussi présents à l'hôpital. Ils font un peu le même travail, mais on les voit beaucoup moins parce qu'ils sont pas nécessairement à côté des patients. Ils vont rentrer des ordonnances qui sont reçues à l'hôpital. Ils vont informatiser tout ça dans les logiciels. Ils vont préparer la médication à l'hôpital pour s'assurer que les patients, quand ils sont hospitalisés, ils reçoivent la médication. Donc, c'est eux qui gèrent aussi ce côté d'approvisionnement-là, donc dans les hôpitaux, mais également dans les pharmacies de quartier.
Et qu'est-ce qui peut expliquer, en fait, cette pénurie de main-d'œuvre-là?
Qu'est-ce qui peut expliquer la pénurie? C'est sûr que c'est multifactoriel, je dirais, mais je pense qu'il faut en parler davantage. Je sais pas, quelque chose de connu peut-être auprès de nos jeunes. Donc, quand on fait un choix de carrière, peut-être qu'on pense pas la première chose à la pharmacie, à être assistante technique en pharmacie. Mais c'est peut-être aussi par justement manque de connaissances de ce métier auprès de nos jeunes. Donc, je pense que c'est important justement d'en parler puis d'expliquer qu'est-ce que leur travail qui est essentiel. Puis c'est un travail très valorisant. On est vraiment contact avec les patients quand on est assistante technique en pharmacie. Je pense que c'est peut-être par méconnaissance de ce rôle-là dans chez les jeunes.
Et une des solutions envisagées par l'Ordre des pharmaciens du Québec, c'est la campagne Une bonne dose d'avenir. C'est quoi l'objectif de cette campagne-là?
Oui, exactement. Ben comme j'en parlais, c'est pour faire connaître en fait ce métier auprès des jeunes et peut-être même des moins jeunes qui veulent se réorienter, trouver une autre carrière. On veut faire connaître ce rôle essentiel des assistantes techniques en pharmacie et des techniciens en pharmacie. L'assistante technique en pharmacie, elle n'a pas besoin d'aller au cégep pour faire ça. Peut être un cours qui est au DEP, tandis que le technique en pharmacie, c'est un cours qui se donne au cégep. Ça, c'est une formation plus approfondie sur justement ce travail-là. C'est un DEC. C'est nouveau actuellement et on veut en avoir plus justement parce que les techniciens en pharmacie vont probablement avoir plus de droits et ils vont pouvoir faire plus de choses pour les patients que, par exemple, les assistantes techniques en pharmacie puisqu'ils ont une formation supplémentaire. De plus en plus, ça va être un super beau métier. Ils vont pouvoir aider les patients directement.
Voilà, c'est Marie-Pierre Poulin qui s'est entretenue avec Gabrielle Catafort, pharmacienne. Pénurie de main-d'œuvre qui touche actuellement les pharmacies communautaires, les hôpitaux et les CHSLD de Lanaudière. Merci à nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Mathieu Bélanger, François Morin, Michel Arnois, Marie-Pierre Poulin, Pierre Paquette. Ici Claude Fournel, passez une excellente soirée. Manquez pas dans un instant Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. On vous donne rendez-vous demain 16h pour une autre édition de Lanaudière PM.